continuer notre méditation. Donc on a vu ce matin comment on fait d'une certaine manière le Père se cache. Donc le Christ a expérimenté toute la distance, nous dit le cardinal von Balthasar, qui sépare l'homme de Dieu. C'est très, très puissant et très, très beau, intérieurement, spirituellement. Il a éprouvé cette distance d'être compté parmi les pécheurs, sans lui-même être passé à l'acte. Et donc on voit le Père justement qui voit toute l'angoisse du Fils, qui n'intervient pas dans sa passion, il se cache jusqu'au fameux cri que nous connaissons. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le feu, le Père veut laisser aller jusqu'à la fin de son, laisser aller le Fils jusqu'à la fin de son dessein de salut, dans un oui parfait, dans un amour parfait. Le Père enlève sa présence au Fils pour permettre au Fils de montrer un amour parfait. Cette distance est aussi une souffrance pour le Père qui n'échappe pas à la passion. C'est aussi la passion du Père. Donc c'est intéressant de voir que c'est ce qu'on appelle aussi la nuit de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la distance qui peut parfois nous séparer du Seigneur, etc., d'expérimenter, mais jamais à la dimension du Christ, mais d'expérimenter nous aussi, modestement, une certaine nuit intérieure, une certaine distance. Le Fils vit une nuit permise par le Père. Le péché, c'est le cardinal qui a cette expression très forte qui dit « Le péché du monde doit être plongé dans les ténèbres de Dieu pour être racheté. » Le péché du monde doit être plongé dans les ténèbres de Dieu pour être racheté. Il est plongé dans cet éloignement spirituel jusqu'au bout de l'amour qui accepte de ne pas comprendre. Parce que dès qu'on comprend, c'est pas que le Christ s'est vu comme, disons, dans sa passion, il y a une forme de solitude. Une solitude, donc c'est pas comme celui qui va s'offrir, je sais pas, pour sauver la vie de quelqu'un, et donc du coup il voit bien que c'est pour cette personne, etc., etc. Il y a juste l'accomplissement de la volonté du Père. Que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Le Père a retiré la lumière de sa présence à son humanité. Il a retiré la lumière de sa présence à son humanité. C'est pas rien. C'est quand on a vécu avec une lumière, une présence de Jésus nous-mêmes, plus modestement encore une fois, toute une vie et qu'aujourd'hui on se sent loin du Seigneur, mais loin parfois même dans le doute, dans la tempête intérieure, où on expérimente cette nuit intérieure. Nous, au moins, on s'appuie sur le Christ. Mais le Christ, j'allais dire, il ne pouvait s'appuyer sur personne, forcément, si c'est lui qui a commencé le chemin. Si c'est lui le chemin. Donc, c'est très beau de voir, justement, que le Seigneur nous donne aussi, nous soutient, nous qui sommes de nature humaine et personne humaine, c'est ce qu'on a vu ce matin. Le Christ est personne divine, de nature humaine, et donc nous rejoint tous ceux qui sont de nature humaine. Le Père a besoin de tout donner au Fils pour souffrir ses ténèbres et ne pas interrompre la passion du Fils. L'heure de la croix est quelque part plus l'heure du Père que du Fils. Voilà. Donc cette méditation sur la Trinité, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, et on voit comment ça... Il y a une tension qui se crée, quand vous relisez la passion, les Écritures, etc., plus il avance vers Jérusalem, plus il renonce à une obéissance qui sait. Plus il renonce à une obéissance qui sait. Il veut être totalement disponible au Père. Et ça, c'est vraiment l'attitude du Christ sur la croix. C'est d'une totale, parfois même de refuser de comprendre. Et dans nos vies, il en va pas mal, parfois il en va ainsi, on voudrait que telle chose s'accomplisse, on voudrait que tel aspect de notre vie change, on voudrait pouvoir avancer, construire quelque chose, on voudrait, et puis rien n'advient. On voudrait se réconcilier parfois dans les familles, etc., puis rien n'advient, il n'y a rien qui passe. Donc il y a une forme d'incompréhension, mais est-ce que je suis capable de dire oui à justement cette incompréhension? Est-ce que je suis capable de dire oui à cette situation? Que peut-être dans 10 ans, ce sera exactement la même chose. Est-ce que je suis capable de ça? D'un vrai lâcher-prise intérieur, en nous appuyant, nous, sur le Seigneur. Mais est-ce que je suis capable de cette... Est-ce que je peux demander... Est-ce que j'en ai le désir? Est-ce que je vois le bien fondé de ça? Est-ce que je vois le bien fondé de ce lâcher-prise intérieur, de vraiment de se remettre dans une totale disponibilité, dans une obéissance qui ne sait pas de quoi sera fait mon avenir? Le Christ sur la croix est totalement donné sans aucun appui affectif. Voilà pourquoi c'est la souffrance la plus grande, c'est le renoncement le plus grand. Alors c'est vrai, il y a d'autres personnes, peut-être vous vous êtes fait la remarque, mais il y a d'autres personnes qui matériellement ont plus souffert que le Christ, c'est vrai. Parce que somme toute, pardon, mais ça a été l'histoire de quelques heures. D'autres, c'est une vie durant. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut comprendre, c'est la souffrance du Christ. La souffrance physique, certainement, est atteint un degré tel parce que la perfection de son corps fait que sa sensibilité, sa souffrance est accrue, mais c'est surtout la souffrance spirituelle de vivre cette ténèbre. C'est l'obéissance crue quand on ne voit plus le chemin et l'amour du Père. Il ne souffre pas en pensant qu'il va sauver, il ne voit pas les fruits. Ni même si c'est le chemin correct, il est plongé dans l'anéantissement, abandonné par le Père, reste sur la croix, l'homme nu et abandonné. Et accepter ça, c'est, on comprend quand on dit tout est accompli. Tout est accompli, j'accepte d'aller jusque-là dans cette. Ce qu'on appelle la kénose, hein, en grec, d'origine grecque, c'est cet anéantissement. Le Christ a accepté, et encore on balbutie, mais d'aller jusque-là pour nous rejoindre tous et nous sauver tous. Mais comme un fruit, comme un don, comme une résurrection. Mais au moment même, il n'y avait vraiment rien de certain. Je veux dire, est-ce que c'est même le bon chemin? Est-ce que c'est la volonté? C'est l'heure du Père. L'heure du Père. On le voit très, très fort dans Saint Jean. Et c'est intéressant de voir que les. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur les personnages de la Passion. Je vous invite à le faire là, pendant cette retraite, à regarder dans votre Bible, vous voyez Saint Luc, etc., ou tous les différents personnages. Et comment chaque personnage de la Passion manifeste quelque chose aussi de notre humanité. Bon, évidemment Judas, évidemment Simon de Cyrène, là on a médité sur le chemin de croix, évidemment Marie, tant ceux qui ont persécuté le Christ que comme ceux qui lui ont été un soutien, Joseph d'Arimathie, ceux qui ont fait du bien au Christ. La présence de l'ange aussi, c'est intéressant, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de votre lien avec les anges. Peut-être pas comme le Père Lamy qui voyait ces gens comme vous me voyez, mais en tout cas, l'ange, il nous soutient, il est là, nous, comme humains, pour nous soutenir aussi dans le combat spirituel. Il y a la présence de l'ange de l'agonie. Hein, je vous renvoie aux Écritures pour que vous puissiez travailler là-dessus, un peu relire, mais évidemment, qu'est assez étonnant, la figure de Barabbas. C'est une figure étonnante de Barabbas. Vous savez ce que veut dire Barabbas? Bar, Abba. Bar, c'est fils. Abba, c'est père. Fils du père. C'est le premier à être sauvé par le fils du père. Il s'appelle fils du père. C'est quand même étonnant. Et c'était un brigand. C'est le premier des sauvés. comme si Jésus venait restaurer en nous cette filiation divine. Pas comme si, c'est Jésus vient restaurer en nous la filiation divine, vient rendre possible une filiation. Alors que nous étions loin, lui s'est fait proche. Et on voit que tous ces personnages de la Passion, ils ne comprennent pas la portée de leur acte. Hein, on voit cette parole de Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est important de voir que Jésus vient sauver des hommes concrets. Ce n'est pas juste le genre humain, mais ceux qui sont en face de lui, à l'instant T. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Deuxième sauvé. Pour le coup, sauvé de chez sauvé, parce qu'il sera en paradis. Il n'est pas simplement libéré comme Barabbas, dont on ne connaît pas le sort éternel. En tout cas, rien. Il n'y a pas eu de cause introduite pour la canonisation de Barabbas, en tout cas, il ne semble pas. Mais c'est intéressant que ce qu'on appelle Saint Dismas, on l'appelle souvent, la tradition l'appelle Saint Dismas, le bon larron, lui n'a pas été canonisé. Alors que c'est Jésus, quelque part, qui. On le sait de façon certaine, parce que Jésus l'a dit, Jésus qui l'a accepté dans son royaume. Donc, sur cette très beau de. Travailler là-dessus, sur la passion, sur les différents personnages, en quoi. Le centurion, tu vois, le païen. C'est ce païen-là qui arrive et qui. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est cette révélation qu'il a eue. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Du cœur ouvert du Christ, voilà. Il a la foi. Beaucoup de choses permettent de connaître le Christ, mais très certainement de méditer sur sa passion, c'est le moyen le plus puissant. C'est le moyen le plus puissant. Et d'expérimenter aussi parfois cette distance de Dieu, ce vide intérieur, mais non pas comme une désespérance. Mais comme chrétiens, dans l'espérance, nous savons la résurrection, nous savons voilà toutes choses que le Christ ne savait pas au moment même. Alors l'Esprit Saint dans la croix, l'Esprit Saint sur la croix, c'est intéressant de voir que le Saint-Esprit, il vient, il participe de toute la passion. Le Saint-Esprit, vous le savez, c'est l'amour du Père et du Fils, cet amour personnifié du Père et du Fils. Il permet de vivre au Fils sa mission. L'Esprit Saint sur la croix est le témoin de l'amour jusqu'au bout. On l'appelle l'Esprit Saint, le témoin fidèle. Vous vous rappelez ce passage dans Saint Jean, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il est témoin. Il est témoin et il nous donne d'être témoins. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement, je vous dis tout cela, pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent pas le Père ni moi. Voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. La présence du Saint-Esprit nous est donnée quand le Christ meurt. Quelque part comme une condition de la venue du Saint-Esprit, c'est la passion. Sans passion, il n'y a pas venue du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, qui dit Esprit Saint, dit don. L'Esprit Saint, c'est celui qui a été la force qui lui a permis de mener à son terme ce don de lui-même. Et l'Esprit Saint dans notre vie, c'est celui qui nous permet de rentrer dans une logique de don. Et on le voit bien au calvaire, hein, l'Esprit a, une fois Jésus mort, qu'arrive-t-il? L'Esprit Saint jaillit de son côté transpercé. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit de l'eau et le sang. Et du sang. Jésus avait prophétisé, bien avant qu'elle n'arrive, cette venue de l'Esprit Saint en la liant à son sacrifice. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon qu'a écrit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste précise, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc c'est intéressant de voir que l'Esprit Saint est vraiment au cœur de la... Au cœur de la passion, il est au cœur de ce que nous-mêmes nous pouvons vivre, et il parle à notre esprit, et ça c'est intéressant, c'est l'Esprit Saint qui parle à notre esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui s'adresse, il est capable de nous consoler avec la manière dont on veut être consolé. C'est l'Esprit Saint consolateur. C'est l'Esprit Saint, et c'est là où il y a quelque chose de... Comme c'est difficile de consoler quelqu'un dans la peine, par exemple. Comme c'est difficile. Parce qu'on ne trouve pas les mots, on balbutie, on dit des choses, mais... voilà. On voit bien, on n'y arrive pas. Et du coup, c'est vraiment la demande que le Saint-Esprit puisse lui-même venir consoler la personne, et de prier pour demander la consolation. Parce que cet esprit, il vient de la croix. Cet esprit a traversé les ténèbres de Dieu. Il a traversé, il a été aux côtés du Christ dans cet éloignement. Il est l'amour par personnifié. Donc c'est, je trouve ça intéressant de nous-mêmes que l'on puisse... Vraiment, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse être profondément respectueux de notre liberté. C'est celui qui nous est donné. Comment nous connaissons le Christ, si ce n'est par son Saint-Esprit? C'est celui qui nous fera souvenir, vous vous rappelez, je vous ferai souvenir toutes choses, etc. Il vous rappellera. L'Esprit Saint, c'est le rôle de la mémoire. Il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Si nous sommes ici, c'est par la force du Saint-Esprit. Par la force d'Internet un peu aussi, puisque vous êtes inscrit sur le site, mais c'est d'abord par la force du Saint-Esprit. Et je trouve que c'est beau de voir que, justement, de voir que l'action du Saint-Esprit, il creuse en nous une capacité. C'est ça le Saint-Esprit. Il creuse en nous une capacité. Une capacité d'accueil de Dieu. D'accueil de la volonté de Dieu, d'accueil de la volonté de Dieu, que, voilà, les circonstances et les nécessités, c'est le philosophe Pascal qui dit ça, les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Je suis dans telle circonstance, je suis dans telle nécessité, il y a des choses que je n'ai pas choisies, il y a des choses qui s'imposent à moi, il y a des choses que je voudrais voir advenir qui n'adviennent pas. Voilà nos maîtres spirituels. Mais ça, c'est l'Esprit Saint qui nous fait discerner ça. Et l'esprit d'abandon, c'est vraiment, c'est ce que Ignace de Loyola appelle dans les exercices spirituels, hein, la sainte indifférence. La sainte indifférence, il ne faut pas confondre avec l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être indifférent parce que les mots sont un peu piégés, mais la sainte indifférence, c'est vraiment l'argile dans les mains du potier. C'est quoi qu'il advienne, Seigneur, c'est oui. Et ça, c'est en contemplant le crucifié. Parce qu'en s'appuyant sur lui, quoi qu'il advienne, Seigneur, c'est oui. En fait, il n'y a qu'un mot à dire, oui, Jésus. Et on voit en nous, on verra demain le combat spirituel, on voit en nous les réticences, on voit en nous des choses qui s'opposent à Dieu, très clairement. Très clairement. Parce qu'on a notre plan, parce qu'on a notre idée du bonheur, parce que c'est tellement humain. Et je trouve que la personne de la Vierge Marie est tellement un soutien pour nous croyants. On l'a, le chemin de croix, voilà. Jésus qui rencontre sa mère, on a médité ça, fait mémoire de cette, présence de Marie. Jean, évidemment, fait mémoire de cette présence de Marie. Il remet l'esprit, lui transmet l'esprit. Marie qui a vécu sous l'ombre du Saint-Esprit. Hein. L'esprit l'a pris sous son ombre. Mais c'est pas simplement au moment de la conception du Christ, mais à tout moment, elle a vécu du Saint-Esprit. Et de voir Marie qui, dans une totale obéissance, dans un total laisser-faire, sainte indifférence, accueille ce qui est l'incompréhensible, alors qu'elle se rappelle les paroles de l'Annonciation. Il sera fils du Très-Haut. Il siégera sur le trône de David, son père. Vous pouvez lire l'Annonciation et mettre en parallèle l'Annonciation avec la croix. Forcément, elle ne peut pas ne pas se rappeler de l'Annonciation. C'est son appel. L'Annonciation, c'est la vocation de Marie. C'est le moment de son appel. Et donc voilà, de créer l'Esprit Saint, il crée cette capacité d'amour, de dire au fond d'un lâcher prise. Et c'est uniquement quand tout est consommé que Jésus remet l'Esprit. Et remettre l'esprit en grec, donc là, dans la traduction grecque, c'est plutôt il transmet l'esprit. Hein, le verbe grec de remettre, c'est plutôt transmettre, livrer à quelqu'un, hein, et constitue la racine du mot que l'on traduit par tradition. Donc, tradition, tadere, c'est transmettre. Il remet l'esprit, la première Pentecôte. Mais il a fallu que s'accomplisse toute cette œuvre de Dieu qui est tellement obscure à nos yeux. Et je veux dire, pour nous aussi, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui nous est donné dans nos histoires personnelles lorsqu'on accepte justement de traverser l'épreuve. L'épreuve, elle manifeste à l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur. Ça peut être l'épreuve de santé, ça peut être l'épreuve du célibat, ça peut être l'épreuve de la vie matrimoniale aussi, ça peut être l'épreuve professionnelle, etc., que sais-je. Mais elle manifeste à l'extérieur ce que nous portons à l'intérieur. Le lieu de l'épreuve, c'est un peu comme un révélateur. Vous vous rappelez, au temps de la fourrure argentique, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais... Le temps de la photo argentique où on imprimait le négatif sur un papier spécial photo et ensuite on le plongeait dans un premier bain qu'on appelait le révélateur, puis un deuxième bain qu'on appelait le fixateur. Tout ça dans une chambre noire avec une lumière curieuse, etc. C'est très particulier, c'est assez magique de fait. Enfin, c'est l'épreuve, c'est le révélateur. Mais l'épreuve, n'oublions pas, l'épreuve ça veut dire aussi tentation. C'est qu'il y a dans la croix du Christ, il y a une véritable tentation. L'angoisse d'accueillir l'agonie, le combat spirituel. Hein. C'est intéressant de voir que l'ange est présent à deux endroits dans la vie de Jésus, à l'agonie et au désert quand il est parti, hein, avant de commencer sa vie apostolique. C'est ce qu'on a lu le premier dimanche de Carême. Comme si il y a entre ces deux événements le début de la vie apostolique du Christ et puis la remise de l'Esprit. Voilà, c'est des lieux tellement cruciaux, c'est des lieux de révélation, c'est des lieux de tentation aussi. C'est des lieux de grâce, donc c'est aussi, quelque part, connaître quelque chose de Dieu, c'est aussi une tentation. Il y a aussi de l'ordre d'un orgueil, par exemple. Quelque part, ça nous est tellement. Oui, ça nous est tellement. Parfois, il y a un combat de connaître quelque chose de Dieu. Ça nous engage. Et donc, ça peut être aussi une tentation, hein, d'être des savants de Dieu, etc. J'aime bien cette phrase de la lettre aux Hébreux. Hébreux 9, 14, hein, l'esprit, par l'Esprit éternel, le Christ s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Voilà, par l'Esprit éternel. C'est l'Esprit qui fait que le Christ rentre dans une attitude d'offrande. Et donc, voilà, c'est de même l'Esprit qui nous fera travailler, traverser l'épreuve, qui nous fera être disciples de Jésus. Et puissions-nous demander dans cette retraite vraiment ce profond abandon, juste comme le Christ, justement, nous qui sommes disciples de Jésus, nous nous appuyons sur lui. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Que ta volonté soit faite. J'aime bien cette parole, cette prière redoutable du père de Foucault, hein, vous connaissez, hein, dont il a été fait un chant, Mon Père, je m'abandonne à toi. Voilà, vous pourriez la redire pendant la retraite. Et c'est une prière redoutable, c'est pas fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que c'est si sûr que ça, que nous acceptons que le Christ fasse de nous ce qu'il souhaite? Est-ce que c'est vraiment si sûr que ça? Et de repérer, il vous est proposé là dans la soirée, après les vêpres, déjà de pouvoir vous confesser, etc. C'est important de confesser. Se confesser n'est pas chose facile. Mais de confesser, ça, juste un petit conseil, confesser des actes libres. C'est des actes où vous aviez prise, des actes où vous auriez pu aller dans un autre sens, dans le sens du Seigneur, de l'Évangile, mais vous avez préféré aller dans un autre sens. Mais vous avez eu conscience qu'il y a un vrai choix qui vous a été offert. Un peu comme je veux dire, la personne addicte, l'alcoolique, qui face au sortir de son domicile a deux routes. L'une qui passe devant le bistrot et l'autre qui n'est où il n'y a pas de bistrot. Voilà, et là, quelque part, c'est pas quand il est devant la bouteille qu'il faut dire, voilà, j'ai trop bu. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut confesser? Ou est-ce que j'avais la possibilité de choisir. Et j'ai choisi l'inverse de ce qui me conduisait. Donc, de confesser des actes volontaires, ça c'est important ça. Un péché n'est péché que s'il est volontaire. Et c'est intéressant de voir que le Christ s'avance vers sa passion volontaire. Il y a une vraie décision, un vrai engagement. Ce qui est pour le salut, l'est aussi pour le péché, c'est un vrai engagement. Donc du coup, c'est intéressant ça veut dire aussi d'être connecté à son cœur, d'être connecté intérieurement, de voir, justement, d'être attentif à ce qu'on appelle les motions du Saint-Esprit. Hein, c'est les mouvements intérieurs du Saint-Esprit. Et donc de voir où on sait qu'on avait le choix, et finalement, voilà, on avait le choix de ne pas critiquer, puis finalement on a critiqué. Ouais, donc, mais bon, se mettre en colère, est-ce qu'il faut confesser le fait de s'être mis en colère? Si on sent que ça nous a submergés, on voit, il y a des personnes qui nous sont submergées par la colère. Ils gèrent pas, quoi. Il y a l'émotion qui c'est vraiment comme on dit, le lait sur le feu, quoi. Là, ça monte. Mais là, est-ce qu'il est vraiment libre? En revanche, une fois l'émotion retombée, aller voir la personne et demander pardon, là, oui. Il y a une vraie liberté et une humilité, évidemment, qui se joue. Donc pensez au Christ qui s'avance vers sa passion volontaire, mais pensez aussi, nous, comme étant en chemin, pécheurs, nous avons volontairement, il y a des choses où on a volontairement pris un autre chemin, alors qu'on avait prise. Et vous savez que l'enfer, c'est vraiment c'est ce lieu spirituel. C'est important de savoir que l'enfer n'est pas en dehors de Dieu. C'est pas, il y a le paradis et l'enfer. Non, c'est soit Dieu est une totalité et on va tous, nous allons vers lui, mais les bienheureux vivent l'amour de Dieu comme une joie, alors que les damnés vivent l'amour de Dieu comme une souffrance. Mais l'enfer est en Dieu, ça ne peut pas être ailleurs. Ou sinon, Dieu n'est pas un tout. Mais justement, l'enfer, si Dieu est un tout, mais il n'est pas totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a un vrai choix de la manière de vivre l'amour de Dieu. L'enfer, c'est vraiment le signe, l'expression d'un profond respect de la personne humaine, allant jusqu'à la négation de Dieu, connaissant Dieu. Allant jusqu'au rejet de l'amour, connaissant l'amour. Donc l'Écriture est très claire, hein, à ce sujet. À l'instant de mourir, Jésus livre l'Esprit aux croyants. Aux croyants qui sont au pied de la croix, Marie et Jean, il livre l'esprit, il redonne il leur transmet l'esprit. D'où l'importance pour l'évangéliste de l'épisode du flanc transpercé, du cœur transpercé. C'est après le cœur transpercé, voilà. Il y a cette effusion du Saint-Esprit. L'amour en personne, l'Esprit a recueilli le poids de charité contenu dans la croix afin de nous le livrer pour la médiation de Jésus. Voilà. L'Esprit qui nous donne de contempler. Et c'est vraiment l'Esprit qui est donné aux croyants une fois le Christ mort et qui a traversé cette distance. Voilà, je voulais juste terminer sur ces quelques mots de la méditation à partir de la Trinité. Méditation que vous pourrez poursuivre.